Europe 1,
9h-10h,
c'est arrivé demain.
David Abiker.
Bonjour et bienvenue dans cette arrivée demain. Aujourd'hui dimanche, journée d'hommage en mémoire des attentats du 13 novembre et de leurs victimes. L'historien Pascal Horry nous dira le rôle et l'importance de ces commémorations. Comment et avec qui va gouverner Trump? La politologue Marie-Cécile Nave, biographe du nouveau président, nous le dira. Le pouvoir au féminin d'Hillary Clinton à Marie-Thérèse d'Autriche, Elisabeth Badinter évoquera ses grandeurs, ses servitudes et ce plafond de verre. Enfin, jeudi, Ariane 5 tentera de réussir son 75e lancement d'affilée. Stéphane Israël, président d'Ariane Espace, nous dira l'enjeu de ce lancement et les défis qui attendent Ariane 6 face à la concurrence américaine.
Europe 1,
c'est arrivé demain. David Abiker.
La journée de ce dimanche sera marquée par des hommages aux 130 victimes des attentats du 13 novembre. Quelle est la portée de ces commémorations? Peuvent-elles renforcer les valeurs républicaines et qu'ont changé les attentats dans la vie culturelle, intellectuelle française? Bonjour Pascal Horry.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la France. Vous publiez Les couleurs de la France avec Michel Pastoreau et Jérôme Séry aux éditions Webec mercredi prochain. Un mot d'abord sur cette journée de commémoration. Quelle fonction collective et individuelle remplit-elle pour les Français selon vous?
Écoutez, David Abiker, une nation, parce que vous prononcez le mot, c'est capital pour la suite de la discussion, une nation a toujours besoin de ces moments de commémoration, c'est-à-dire de se ressouvenir ensemble. C'est la commémoration, c'est avoir de la mémoire plutôt que de l'amnésie, ce qui est quand même pas mal pour un individu comme pour une collectivité, et se retrouver ensemble. Donc ça suscite évidemment la cérémonie, la fête. Pourquoi pas même quelque chose d'assez extraordinairement peu contrôlé. Il y a toutes les formes, mais la commémoration est absolument indispensable. Sinon, eh bien cette communauté, que ça soit d'ailleurs une nation ou une collectivité locale, etc., se délite complètement.
Est-ce que vous croyez à la capacité de ces moments-là d'être vécus individuellement, je ne dis pas par chaque Français, mais par un maximum de Français, ou est-ce que des commémorations de ce type-là peuvent être guettées par l'indifférence?
Elles sont toutes guettées par l'indifférence avec le temps qui passe, l'éloignement des enjeux, le fait que certaines valeurs paraissent aller de soi ou que chacun en donne une définition différente. On va sans doute parler du drapeau tricolore. À un certain moment, chacun a donné sa définition du drapeau tricolore, donc plus personne n'était vraiment d'accord. Et puis il y a les moments de chaleur collective qui sont souvent des moments dramatiques. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, évidemment. Et là, on a vu par exemple la Marseillaise et le drapeau tricolore ressurgir, mais ça me paraît naturel, c'est-à-dire culturel.
Est-ce que ça a changé justement le rapport au drapeau? Vous en parlez, vous y consacrez un livre à ces couleurs de la République, ces couleurs du drapeau. Vous avez le sentiment d'un changement d'affect et de rapport à ces couleurs françaises?
Il y a une anecdote que raconte Jérôme Séry dans le livre qui est très intéressante, qui n'est pas sans lien avec Donald Trump, soyons clairs.
Encore lui,
pour pas mal de temps d'ailleurs, apparemment. C'est qu'un journaliste français, je ne dis pas que c'est vous, vient rendre visite au grand écrivain américain Philip Roth et ils voient un drapeau américain qui flotte, évidemment, parce qu'aux États-Unis, au Danemark, ça va de soi, ce culte du drapeau, ça va pas de soi en France. Et alors, le journaliste français dit à Roth, ah ben, je ne savais pas que vous votiez républicain. Sous-entendu, Front National, quoi. Et Philip Roth dit, mais c'est pas possible, vous, les Français, vous avez un problème avec le drapeau. Parce que le drapeau, il est sorti de la Révolution. C'est un signe d'émancipation, de liberté, d'égalité. Et évidemment, dans la guerre civile franco-française, il a été accaparé à certains moments, par exemple, par l'extrême droite. Mais c'est ce que je dis à mes étudiants, Jeanne d'Arc n'adhère pas au Front National. Donc le drapeau tricolore vient de la modernité, de la liberté, de l'égalité. Et c'est ce qu'on a compris l'année dernière.
Je me souviens d'une de vos formules que j'avais entendue il y a quelques mois. Vous disiez, non, on n'est pas au bord de l'explosion ou de la guerre civile, on est au bord du rassemblement. J'avais trouvé ça très joli.
Et oui, quand la situation est compliquée, ça se voit d'ailleurs dans ce livre, au moment de 14-18, de 39-45, à la libération, eh bien, on se retrouve dans une forme de rassemblement qui parfois est un peu opportuniste, hein, où on retrouve peut-être les ennemis d'hier, les ennemis de demain. Mais en attendant, il faut affirmer, les marches républicaines, c'était quand même ça. Et on a fait la comparaison d'ailleurs entre les marches républicaines de janvier 2015 et la libération. Mais c'est tout à fait ça. Historiquement parlant, il faut le confirmer.
On parle de ces hommages, de ces cérémonies, de ces rassemblements, et on pense nécessairement collectif, mais on s'est aperçu au moment de Charlie et au moment des attentats qu'il y avait des appropriations des valeurs et du drapeau par le biais des réseaux sociaux et par le biais de l'individu et de sa petite personne. Je suis Charlie, je suis en terrache, je suis solidaire d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une synthèse entre l'individualisme des temps et puis la nécessité de se rassembler?
Ben, vous avez tout dit.
Oh, merde.
C'est-à-dire que ich bin ein Berliner. Bon, effectivement, moi aussi je suis berlinois et c'est quelqu'un qui n'est pas berlinois qui le dit. Je ne suis pas forcément Charlie quand on voit les ventes de Charlie avant les attentats. Évidemment, la grande majorité des 4 millions de personnes qui défilaient n'étaient pas des lecteurs de Charlie, mais ils étaient pour des valeurs, vous avez tout à fait raison, en particulier la liberté d'expression. C'est pour ça que le mot liberté d'expression a été le grand slogan dès le mercredi, vous vous rappelez. Donc ça me paraît tout à fait logique, c'est lié en effet à l'individualisme. Moi, ce que j'avais proposé comme formule tout de suite, parce que ça me sautait aux yeux en m'immergeant dès le mercredi, à fortiori le samedi et le dimanche dans ces manifestations de janvier, c'était que c'était manifestation de masse, mais d'individualiste. On peut faire masse dans une société individualiste.
Quel regard vous portez sur l'évolution du débat d'idées, vous l'historien des idées intellectuelles, de la culture, sur le débat d'idées tel qu'il a évolué en France depuis 2 ans? Est-ce qu'il y a de nouveaux clivages? On a dit les intellos réactionnaires occupent tout le terrain. Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce qu'on a eu le débat que la France méritait dans cette période d'incertitude?
Je crois qu'il ne faut pas oublier un premier point, c'est que l'aura internationale de l'intellectuel français est très affaiblie. Donc les débats intellectuels français ont moins d'écho en France aussi parce qu'ils ont moins d'écho à l'étranger. On n'est plus à l'époque de Sartre, Simone de Beauvoir, Camus, etc., qui s'entretuaient ou qui s'entre-déchiraient quand même, clairement. Donc, je veux dire, cette grande époque était une époque de polémique. La polémique s'est déplacée. L'intellectuel réactionnaire, ça a toujours existé, entre parenthèses, c'est pas une nouveauté. Il y a un regard qui est plus ou moins effectivement positif ou négatif sur l'évolution général de la société. Ce n'est pas nouveau.
Les intellos de gauche, ceux qu'on appelait les intellos de gauche, j'ai l'impression qu'ils ont déserté le terrain, à tort ou à raison d'ailleurs.
Je pense que beaucoup d'intellectuels ont déserté le terrain quand même. Il reste des intellectuels, disons, classiquement de gauche qui sont déclinants. Alain Badiou, par exemple, c'est vraiment un modèle à l'ancienne, agrégé de ceci et de cela. Aujourd'hui, je pense que le débat intellectuel se déplace, par exemple, vers des spécialistes en sciences sociales, des géographes ou des sociologues qui travaillent sur le terrain et qui, évidemment, nuancent les perspectives idéologiques qui étaient triomphantes à l'époque de la guerre froide. Nous en sommes bien éloignés aujourd'hui.
Alors, il y a ce qu'on attend des élites, des politiques, des intellectuels, et puis il y a ce qu'on attend de la société dans un moment comme celui-là, un moment d'union républicaine, d'union nationale. On dit en ce moment, c'est la faute des élites, c'est la faute des politiques. Est-ce que nous avons une responsabilité, au moins historique, chacun, individuellement?
C'est un vieux discours. Hein. Le discours qu'on peut qualifier de populiste, je crois que le terme est exact, hein, il faudra en parler un jour. Le fascisme n'étant qu'une version extrémisée du populisme, c'est déjà vieux. Deuxièmement, c'est quand même le signe d'un malaise. Parce que Donald Trump, je ne vais pas anticiper sur d'autres invités, hein, Donald Trump, il a eu 2 fois raison. Il a gagné les élections et d'autre part, il a confirmé qu'effectivement, une partie des médias, je suis ici à une radio, hein, une partie des médias, des universitaires, je balaye devant ma porte, des intellectuels du New York Times, etc., étaient à côté de la plaque. C'est ce qu'il disait et ça a été vérifié, c'est ce qu'on appelle être performatif. Hein.
Je reviens aux hommages d'aujourd'hui. Ils ont pour fonction le souvenir, de se rappeler, de se recueillir. Comment on peut se projeter dans l'avenir avec des valeurs renforcées, sachant qu'il y a eu il y a des menaces sur les valeurs européennes qu'on a mal défendues, qu'il y a des menaces sur la cohésion nationale, certains parlent de climat de guerre civile, etc. Quelles peuvent être les vertus à venir de commémorations comme celle d'aujourd'hui?
D'abord, j'ai été très sensible qu'à propos, par exemple, du Bataclan, il y a eu spontanément, sans aucune consigne, ces constitutions de lieux de mémoire, vous savez, sur les trottoirs, etc. Ça voulait dire que la société attendait pas que l'État lui dise « Vous allez vous réunir tel jour, un an plus tard ». Non, elle a fait commémoration de manière spontanée. Ça me paraît déjà une bonne réponse. Ensuite, les valeurs, c'est comme l'ancienne pile vendeur, ça ne s'use que sinon on ne s'en sert pas. Les valeurs, vous savez, en 1940-44, effectivement, elles devenaient urgentes, elles devenaient évidentes, et puis en période de prospérité, ça s'amollit un petit peu, tout le monde se chamaille. Je pense qu'il faut croire à une sorte d'énergie de la crise. Et vraisemblablement, nous n'en sommes pas sortis de la crise, de toutes les crises. Et donc, je pense que ça peut être dynamisant, au contraire.
Quel est le rôle des politiques? Ce sera ma dernière question. Dans ce contexte-là, est-ce qu'ils accompagnent ou est-ce que ce sont devenus, eux aussi, des spécialistes des commémorations, invoquant une France de victimes, inaugurant les chrysanthèmes et jouant sur les peurs qui accompagnent cette période?
Il faut distinguer ceux qui sont au pouvoir et ceux qui voudraient y être. Ceux qui sont au pouvoir font leur job quand même. Commémorer, réunir, c'est ça qu'on attend d'eux. Donc je pense qu'ils font très correctement leur travail, en particulier en France. Mais bien entendu, une partie de la France considère que c'est insuffisant. Et là, il faut considérer qu'il y a quand même deux types de discours. Il y a un discours qui élève, qui essaye d'unir et d'élever, et puis un discours qui abaisse et qui divise. Et parfois, ceux qui abaissent et qui divisent sont écoutés, apparemment.
Pascal Horry, merci.
Merci à vous.
D'avoir été ce matin avec nous sur Europe 1, historien, professeur à la Sorbonne, auteur des couleurs de la France, très beau livre avec Michel Pastoureau et Jérôme Séry. Ça paraît mercredi chez Houellebecq. Merci encore. Et à suivre, une question. Comment et avec qui Donald Trump va-t-il gouverner l'Amérique? Question posée à sa biographe, la politologue Marie-Cécile Nave.
Europe 1, 9h-10h.
C'est arrivé demain.
David Abiker.
Dans les semaines qui viennent, Donald Trump va devoir composer son équipe, recruter 4000 collaborateurs pour son administration. Cette équipe ressemblera-t-elle à sa campagne ou à celle d'un président placé sous le contrôle des hommes forts du Parti républicain? Bonjour Marie-Cécile Nave.
Bonjour.
Politologue, sociologue, spécialiste des droites américaines. Vous enseignez à l'université de Nanterre et avez publié dès le mois d'août « Trump, l'onde de choc chez FIP ». Vous sentiez déjà qu'il pouvait gagner?
On voyait depuis l'enchaînement des victoires aux primaires, mais surtout dans l'été, une dynamique en sa faveur qui, comme chacun le sait, s'est un petit peu estompée, du moins dans les principaux sondages et dans les principaux médias de la côte Est en octobre, après les débats avec Clinton. Mais il y avait quand même cette possibilité qu'il arrive au bout. Et oui, on voyait qu'il y avait un engouement populaire très fort sur le rejet de l'autre, sur le fait de sauver l'Amérique blanche contre les bouleversements démographiques, le fait de revenir au patriarcat aussi, ça on en a peu parlé, mais tous les dérapages sexistes de Trump, pour moi, c'est justement pas des dérapages, c'est calculé pour dire, voilà, la société d'avant, patriarcale, traditionnelle, c'était mieux.
Et il est élu, et vous avez eu cette intuition, Marie-Cécile Nave, biographe de Trump. Comment et avec qui dorénavant va gouverner Trump? On a déjà des premiers indices, il y a des lobbies, des hommes d'influence, beaucoup d'hommes, peu de femmes évidemment.
On va voir en janvier s'il répond à la promesse qu'il a faite à ses électeurs, à savoir de rompre avec le système. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin, puisque l'équipe de transition qui est pilotée par le futur vice-président Mike Pence est plutôt composée de l'establishment républicain le plus dur, des ultra-conservateurs sur les questions de société, des ultra-libéraux sur les questions économiques, avec des grands lobbyistes, des anciens Goldman Sachs, les grands ténors du parti, donc sont Pence, mais il y a aussi Giuliani, Simmons, qui sont vraiment des ultra-républicains. Et puis, il a aussi une poignée de fidèles, alors ses propres enfants, et puis quelqu'un qu'on connaît peut-être pas très bien en France, qui est Steve Bannon, un des leaders du mouvement ultranationaliste alt-right aux États-Unis, qui a aussi un site d'information très influent, Breitbart News. Et donc, on est plutôt dans une continuité, voire dans un durcissement de l'establishment qui a été tant combattu par Trump et sur lequel il a fait son succès.
Alors, il y a un chiffre qu'on connaît mal et qui est directement lié au système américain qu'on appelle le spoil system, c'est-à-dire le renouvellement des cadres de l'administration présidentielle après une alternance. 4000 collaborateurs à recruter, il peut vraiment renouveler le pouvoir de ce système qu'il déteste, lui, l'antisystème, parce qu'il faut les trouver, les 4000 cadres, grands directeurs d'administration qui vont faire la fameuse politique qu'il a portée pendant sa campagne et qu'il faut maintenant appliquer. Il faut trouver les têtes pour faire ça et des nouvelles têtes.
Alors des nouvelles têtes, c'est le défi. Après, bon, maintenant qu'il est élu, on sait bien, le pouvoir attire les gens. Il y a des gens qui, justement, l'avaient fustigé pendant sa campagne, qui reviennent un petit peu avec un grand sourire. Oui, c'est tout son défi. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va faire venir des gens issus du monde économique, mais peut-être du small business? Est-ce qu'il va faire venir des gens de la société civile ou alors des hommes et des femmes politiques inconnus du grand public qui sont pas dans le système a priori? Moi, j'ai l'impression quand même. Je reste à l'image de son premier discours après l'annonce de sa victoire, où il avait l'air vraiment très surpris d'avoir gagné. Il était sidéré d'avoir gagné. Et derrière, vous aviez l'image de Mike Pence, qui lui avait un grand sourire. Et cette image, elle est forte parce que c'est un peu comme si tous les anti-Obama, les gens qui ont eu une haine très forte vis-à-vis d'Obama, qui ont été au Congrès pendant 8 ans et qui détestent l'ancien président, se disent ça y est, notre heure est venue maintenant pour rompre avec cette société multiculturelle, ouverte sur le monde, qui donne des droits aux homosexuels, aux femmes et qui considère que l'environnement est une préoccupation.
Mike Pence dont vous parlez, qui est le vice-président, qui va lui aussi s'installer avec Trump... finalement, si je vous comprends bien, peut-être le danger va-t-il venir d'un Trump un peu abasourdi de sa victoire, mais d'une administration qui va se composer autour de lui et qui va faire ce dont elle rêve depuis des années.
Oui, c'est une très forte possibilité. Il faut rappeler quand même que Trump n'a aucune expérience politique, qu'il a pas de réseau politique ancien, contrairement à Pence et Giuliani et tout cela. Il n'est pas impossible qu'on ait affaire même à des batailles internes entre Trump et ce type d'establishment, sans compter que au Congrès, certes le Congrès est à majorité républicaine, mais le Parti républicain n'a absolument pas solutionner toutes les divisions qui le hantent depuis disons 2008, hein, l'élection d'Obama. Ils sont très divisés sur plein de sujets comme l'immigration, la défense du big business ou du small business, la question de la dette fédérale, sans parler de la politique étrangère. Donc ça sera pas une tâche facile, même si en apparence effectivement on a un super pouvoir républicain.
Un président qui arrive à la Maison-Blanche et qui arrive au pouvoir, il arrive toujours avec son programme et puis les contradictions qui sont dans le programme. Vous venez d'en évoquer une partie. Est-ce qu'il va l'appliquer, ce programme? On pense évidemment aux positions sur l'immigration, sur l'avortement. Il y a un exemple hein, que tout le monde scrute, c'est quel juge va-t-il nommer à la Cour suprême susceptible de faire basculer les conceptions et les principes sur la liberté d'avorter aux États-Unis?
Alors là, pour le coup, la question des droits des femmes, ça va être un point d'accord entre lui et l'establishment républicain et le Congrès. Hélas, on pourrait dire. Mais cependant, la nomination d'un juge à la Cour suprême ne se fera pas si facilement que ça parce qu'elle doit être approuvée par le Sénat. Or, le Sénat n'a qu'un siège d'avance en faveur des républicains. Il est très possible, voire probable, que la minorité, la grosse minorité démocrate, lui mette des bâtons dans les roues et ce qu'on appelle un filibuster, c'est-à-dire un blocage institutionnel, non seulement pour certaines nominations, mais aussi pour certaines lois. Je pense à la réforme de la santé, ça risque d'occasionner, pour le coup, un blocage institutionnel dont il a fait les choux gras entre guillemets pendant sa campagne en disant voyez les gens s'entendent pas, les politiciens défendent leurs intérêts et pas les intérêts du peuple, ils sont dans un blocage permanent. Donc ça sera difficile. Cependant, sur les questions de mœurs, sur les questions d'émancipation des femmes, là il y a on s'achemine quand même à grands pas vers un retour en arrière, d'autant que sur l'avortement, il y a plusieurs États fédérés qui ces dernières années ont pris des mesures très très dures contre les femmes, et c'est surtout les femmes défavorisées qui en pâtissent. Et il y a beaucoup de gens chez les ultras qui veulent un retour en arrière, notamment une remise en cause de l'arrêt Roe vs Wade de 1973, qui est un peu notre loi Veille, c'est un peu leur loi Veille, pardon.
Certains font le pari d'un assagissement de ce président, comme il faisait le pari de sa défaite. Est-ce qu'on ne commet pas à nouveau l'erreur de prendre les désirs pour des réalités? Le cinéaste Michael Moore, avant d'entrer dans le studio, vous me disiez, ce cinéaste, ce journaliste dit qu'il ne tiendra pas 3 ans. Est-ce que là encore, on se plante pas?
Je crois que maintenant, il faut vraiment faire preuve de la plus grande prudence vis-à-vis de Trump. Je suis pas sûre que je sais qu'il avait envie de gagner, ça c'est certain. Qu'il a envie de gouverner, c'est moins sûr. Après, il peut se prendre au jeu du pouvoir aussi. Peut-être que ça l'amusera pas pendant 4 ans.
Certains parient sur la métamorphose, sur le fait qu'il rentre dans le costume, et d'autres disent, mais non, c'est pas nécessaire qu'il ait cette envie du pouvoir.
Encore une fois, ça va dépendre des rapports qu'il a avec l'équipe qui l'entoure, avec le gouvernement et avec le Congrès. Et en même temps, il change d'avis sur plein de choses. Alors pour moi, Trump n'a pas de programme clair. Parce que vous avez vu, au lendemain de son élection, il a supprimé sur son site la mesure d'interdiction des musulmans sur le territoire américain. Puis ça a été remis. La sortie de la COP21, ça a disparu aussi. Il a rencontré Barack Obama et à l'issue de cette rencontre, il a dit bon, bah, finalement, l'Obamacare, je ne sais pas si je vais la supprimer. Parce que peut-être Obama lui a dit t'y arriveras pas comme ça, hein, y a quand même un Sénat qui va te mener la vie dure. Et puis si tu veux faire des choses pour les plus démunis, ben, dans l'Obamacare, y a quand même plein de trucs. C'est un amateur complet, mais il gouvernera pas seul, il faut pas l'oublier. Et le rapport de force ou la collaboration avec l'administration et l'establishment ultra, c'est ça la clé des semaines qui viennent.
Marie-Cécile Nave, merci à vous. Je rappelle que vous êtes politologue et que vous avez publié Trump, l'onde de choc aux éditions FIP. Merci d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, on parle des grandeurs et servitudes du pouvoir au féminin d'Hillary Clinton et pour cause à Marie-Thérèse d'Autriche dans l'histoire avec la philosophe Elisabeth Badinter.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Europe 1, 9h, 10h.
C'est arrivé demain.
David Abiker.
Le pouvoir au féminin en question ce matin sur Europe 1 avec la défaite d'Hillary Clinton, évidemment, qui interpelle directement mon invité, qui publie la biographie de Marie-Thérèse d'Autriche, femme puissante qui, elle, à exercer le pouvoir suprême. Bonjour Elisabeth Badinter.
Bonjour.
Vous venez de publier Le pouvoir au féminin, Marie-Thérèse d'Autriche. On va en parler dans un instant, mais avant cela, il faut parler d'un pouvoir qui va s'exercer au masculin et qui, dans sa campagne pour accéder à la Maison-Blanche, a fait assaut de machisme, de discours sexistes et qui, malgré ça, l'a emporté. Elisabeth Badinter, que vous inspire la victoire de Donald Trump ?
Ça m'inspire plusieurs choses. D'abord, très franchement, une angoisse pour ce qui va se passer en Europe maintenant. Mais sur le plan américain, ça confirme l'idée que j'ai toujours eue, à savoir que ça n'est pas parce qu'on est une femme qu'on va voter pour une femme. Et les résultats actuels des sondages le montrent. Et je pense que la plupart des votants votent pour quelqu'un qui défend ses idées. Si une femme défend vos idées et que vous êtes femme, vous votez avec encore plus d'enthousiasme. Mais sinon, je crois que c'est complètement faux de penser que parce que vous êtes homosexuel, noir, juif ou musulman, vous allez voter pour un candidat qui vous ressemble physiquement, avec lequel vous pouvez éventuellement partager quelques valeurs. Non, on vote pour les gens qui défendent vos idées.
Elisabeth Badinter, il y a deux modernités aujourd'hui dont on entend parler. Le pouvoir des femmes comme Angela Merkel, Theresa May, celui qu'aurait pu exercer Hillary Clinton, d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a le pouvoir des Erdogan, des Poutine, des Trump, qui sont des pouvoirs virils, des pouvoirs parfois de la brutalité. C'est ça les modèles de pouvoir aujourd'hui.
Je ne pense pas que ce soit forcément la caractéristique d'un pouvoir masculin. Je pense que c'est un extrême du machisme et du virilisme. Je voudrais quand même souligner qu'il ne faut pas penser que parce que vous êtes une femme, vous êtes forcément dans la douceur, la compréhension, la morale, etc. Et juste peut-être pour remettre les choses à leur place, on me dit souvent, mais regardez Angela Merkel, elle a reçu 1 million de personnes émigrées en danger, etc. Est-ce qu'un homme aurait fait ça? Et je réponds, Madame Merkel est une vraie politique, mais il ne faut pas oublier que Madame Angela Merkel, elle avait laissé une image détestable d'elle dans l'été, comme la méchante de l'Europe contre la Grèce, et que c'est aussi une femme qui se soucie d'économie, et l'Allemagne manque de bras. Le pouvoir, l'ambition, l'intelligence, ça n'a pas de sexe.
La preuve, c'est que Marine Le Pen a été la première personnalité politique française à reconnaître, féliciter Donald Trump de sa victoire et à s'en réjouir. Ça vous inspire quoi ?
Mon premier réflexe, ma première pensée, ça a été voilà la voie ouverte pour Marine Le Pen. Parce que l'élection de Trump à la tête du plus grand pays du monde, le plus puissant en tous les cas, va, à mon avis, décomplexer beaucoup de gens dans nos élections prochaines qui se diront, après tout, si l'Amérique a voté pour le Marine Le Pen masculin des États-Unis, pourquoi nous n'oserions pas le faire à notre tour ?
Elisabeth Badinter, j'en viens à votre livre qui est consacré à Marie-Thérèse d'Autriche, impératrice d'Autriche-Hongrie, femme que vous avez étudiée non pas pour en faire la biographie, mais pour nous expliquer en quoi son rapport au pouvoir, justement, était moderne dès le XVIIIe siècle. En quoi elle était moderne ? Pourquoi elle ?
Alors, d'abord, elle est unique. Il n'y a pas une de ses pères féminine et encore moins de ses pères masculins, qui a connu cette situation d'avoir à gérer une triple vie. Femme amoureuse, avec un coup de foudre à l'âge de 6 ans, jusqu'à la mort du mari, et puis mère de 16 enfants qu'elle a élevés, et en même temps qu'elle fait des enfants, c'est une guerrière. C'est-à-dire qu'elle a réuni dans sa façon d'être, au pouvoir, toutes les caractéristiques de la condition des femmes du XXIe siècle. Ça m'a passionnée. Cette femme a eu le talent d'utiliser ce qu'on appelait les faiblesses féminines, alors donc faiblesse du corps, faiblesse de la mère qui doit accoucher, etc. Elle a utilisé l'image de la mère associée à la faiblesse et elle en a fait une force.
Vous qui êtes proche évidemment du groupe Publicis, vous êtes sensible à cette femme de communication parce qu'au XVIIIe siècle, elle fait de la communication, mais mieux que ça, elle fait de la communication avec ses faiblesses, c'est-à-dire les grossesses, le handicap devient avantage.
Exactement, elle peut se permettre, elle, d'exploiter quasiment simultanément à plusieurs, quelques mois d'intervalle, deux images d'elle qui vont marquer l'Autriche et les pays héréditaires. Elle va se faire couronner en Hongrie roi, parce qu'on ne reconnaît pas de reine, et on lui demande de se comporter physiquement avec un rituel masculin. Et donc, elle est à cheval, à califourchon, ce qui ne se fait pas pour une femme à l'époque. Elle doit avoir une épée très lourde, monter une montagne, et avec son épée, montrer qu'elle va protéger toute la Hongrie. C'est donc une image très virile d'elle. Et quelques mois plus tard, c'est tout l'inverse. Elle va à la diète des Hongrois et elle va demander l'aide des combattants hongrois parce que elle est prise à la gorge par Frédéric II qui est au bord de rentrer dans Vienne. Et là, elle dit, voilà, je suis venue avec mes enfants, protégez-moi. Je ne sais plus quoi faire, je suis une femme debout. C'est tout ce que je peux faire. À l'aide, venez à mon secours.
Et elle joue à fond la figure de la victime et la figure de la mère. Parce que vous dites dans le livre que ces représentations, c'est-à-dire les photographies de l'époque qui sont des tableaux, elle se fait peindre avec sa ribambelle d'enfant, un peu comme un Trump avec sa ribambelle de femme et sa ribambelle de fille et sa ribambelle de gendre. Et elle invente la communication par la famille.
Exactement, par la bonne mère. Et elle se fait faire quatre fois peindre par le même peintre pour montrer qu'il y a des enfants en plus. Et donc, ces tableaux sont connus de toute l'Autriche. Et c'est une façon de communiquer et d'installer, qu'on le veuille ou non, une sorte de matriarcat.
Et il y a une autre image d'elle, qui est une image très infamante, puisqu'à l'époque, son empire est menacé. Elle est représentée dans des gravures galantes, grivoises, nues, hein, des gravures graveleuses. Elle est représentée nue, avec les chefs d'État autour d'elle qui veulent faire main basse sur sa cuisse, sur son sein, qui
lui disent, arrache ses vêtements.
Ils lui disent « Laisse-toi faire, ma belle ». Et de cette image dégradante, elle fait encore une force.
Oui, parce qu'elle devient une victime. Et c'est là où c'est extraordinaire. Elle arrive à susciter l'adhésion, la sympathie, l'envie de l'aider des femmes anglaises. Et il y a cette chose que je n'avais jamais vue nulle part, à savoir que des femmes en particulier, mais aussi des hommes, vont lui envoyer de l'argent. Il y a des publicités de l'époque dans les journaux pour dire « envoyer de l'argent, on vient au secours de Marie-Thérèse ».
C'est le financement participatif de l'impératrice qui est fauché à l'époque.
Exactement. Il n'y a plus un sou, il n'y a plus un soldat. Tout est... Et là, elle reçoit la marque de la solidarité féminine. Je ne pense pas, pour tout vous dire, qu'on en aurait fait autant pour un homme en perdition.
Puisqu'on parle de sa vista à l'époque, revenons dans le présent. Et on est tous un peu sidérés par l'élection de Donald Trump. Il y a un effet miroir de part et d'autre de l'Atlantique. Nos politiques, que peuvent-ils aller chercher chez cette femme pour essayer de surmonter la crise démocratique qu'ils vivent aujourd'hui?
C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Et vraiment, parce que, imaginez une femme politique aujourd'hui, est-ce qu'elle pourrait, elle, se permettre de dire « je suis une faible femme, aidez-moi ». Est-ce qu'une femme politique aujourd'hui peut se permettre de pleurer? Non, elle peut pas. Donc, aujourd'hui, les femmes politiques, je parle des femmes politiques parce que je me suis plus intéressée à elles, n'ont pas beaucoup le choix de montrer leur féminité, pas question de séduire. Parce que la politique, c'est quand même très viril, c'est très guerrier. Imposer sa loi, même dans une démocratie à l'opposition, c'est guerrier. Donc, pour l'instant, les femmes en politique sont assez neutres, observent une certaine neutralité. Et très franchement, je n'ai pas la clé pour trouver le moyen de changer l'expression politique.
Elisabeth Badinter, Le pouvoir au féminin, un regard moderne sur le pouvoir de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, s'est paru jeudi chez Flammarion. Merci madame d'avoir été ce matin l'invitée d'Europe 1.
Merci à vous.
Et vous restez avec nous sur Europe 1 ce dimanche matin. Jeudi prochain sera une grande journée pour l'aérospatiale européenne et française. On en parle avec le président d'Ariane Espace, Stéphane Israël, est sur orbite dans C'est arrivé demain.
Europe 1,
9h-10h, C'est arrivé demain. David Abiker.
Il n'y a pas que le rêve spatial américain. Jeudi prochain sera un jour important pour l'aérospatial français et européen. À bord d'une mission russe, Thomas Pesquet sera le 10e français à partir dans l'espace, tandis qu'Ariane 5 tentera le même jour de réussir son 75e lancement d'affilée, un record. Bonjour Stéphane Israël.
Bonjour.
Président d'Ariane Espace, on va parler de ce 75e lancement d'Ariane. Avant cela, j'aimerais savoir si l'élection de Donald Trump aura un impact sur la politique et les programmes spatiaux américains, sachant que dans l'histoire des États-Unis et l'histoire des présidents américains, le rêve spatial a toujours tenu une grande part. Barack Obama a dit en quittant la Maison Blanche, en 2030, on ira sur Mars. Est-ce que Donald Trump a son mot à dire dans ses programmes ?
Quand on fréquente les acteurs américains, publics comme privés, on est surpris du rôle désormais catalyseur de Mars. Quand vous parlez à la NASA, quand vous parlez à nos concurrents, c'est Mars, Mars, Mars. Donc la question que l'on peut se poser, c'est de savoir si Donald Trump va confirmer cette orientation. Je n'ai pas d'indication, mais je n'ai pas non plus forcément de très bonnes informations pour dire l'inverse ou pas. Mais effectivement, je pense que la grande question, c'est est-ce que Trump, qui a montré qu'il pouvait être un peu iconoclaste sur d'autres sujets, va confirmer l'orientation donnée par son prédécesseur ou est-ce qu'il va la remettre en cause et je crois que ce sera ça la principale question. Ensuite, évidemment, la deuxième question que l'on peut se poser, c'est est-ce que Trump va renforcer l'espace militaire est-ce qu'il va se déployer plus de crédits pour des choses qui auraient trait à la militarisation de l'espace ou pas. Et la troisième, c'est comment il va gérer les équilibres entre les acteurs plus traditionnels, Boeing, Lockheed, et puis les nouveaux venus de la Silicon Valley. Comment va-t-il se comporter vis-à-vis de ces acteurs qui sont tout de même très différents ?
On en parlera de ces nouveaux acteurs. Hein, Jeff Bezos d'Amazon qui veut aussi envoyer des fusées dans l'espace. Il y a Elon Musk. On va y revenir, mais votre actualité à vous, Stéphane Israël, président d'Ariane Espace, c'est jeudi prochain, le 75e lancement d'Ariane. Ça pourrait être un record de lancement réussi d'affilée.
Avec le précédent lancement, nous avons atteint le même nombre de succès d'affilée qu'avec Ariane 4. Donc c'était déjà un moment de satisfaction. Mais évidemment, si nous pouvons maintenant en ajouter un et dépasser le record d'Ariane 4, ce sera très important. Ce sera important à deux titres. D'abord parce que c'est une mission pour l'Europe, pour la Commission européenne, pour l'Agence spatiale européenne. Nous allons pour la première fois avec Ariane 5 déployer 4 satellites Galileo. Et donc, cette mission est extrêmement importante.
Et Galileo, c'est important parce que c'est la géolocalisation à l'européenne pour éviter un monopole américain avec le GPS, le système GPS. Donc, c'est un enjeu très, très important.
Oui, il y a évidemment un enjeu de souveraineté, un enjeu d'autonomie des Européens. Le système sera interopérable avec les autres systèmes, mais ça serait quand même curieux que non seulement les Américains, mais d'autres continents aient leur propre système de navigation et que les Européens, finalement, ne l'aient pas. Et le deuxième enjeu, c'est la fiabilité, parce que dans l'attractivité de l'offre Ariane, cette fiabilité est pour nous un instrument clé, un facteur clé de succès. Et donc, le fait d'avoir un succès de plus, cela nous renforce sur le marché.
Stéphane Israël, vous parlez de l'enjeu commercial, de la fiabilité de l'offre Ariane. Pour que ce soit clair pour nos auditeurs, un lancement d'Ariane, ça coûte combien et ça rapporte combien ?
Alors, coûter, rapporter, je ne sais pas, mais si vous voulez, une Ariane 5, ça va coûter à peu près entre 150 et 170 millions d'euros. Ça dépend à peu près des modèles. Et donc, ça va faire, puisqu'on est beaucoup sur un marché dollar, aux environs de 200 millions de dollars. Ça, c'est ce que coûte une Ariane 5. Alors, en général, il y a deux passagers. Là, c'est un peu particulier avec le lancement Galileo, puisque vous avez 4 satellites, mais vous avez un gros satellite et un petit satellite. Et
quand donc, vous dites des passagers, C'est des machines.
Oui, pardon.
Qu'on ne confonde pas avec les Thomas Pesquet qui
exactement,
partiront
c'est
le
pas,
même jour.
C'est, nous ne faisons pas de vol habité. Mais donc, on va dire, voilà l'ordre de grandeur de ce que coûte ou de ce que peut rapporter un lancement Ariane.
C'est important, Stéphane Israël, d'assister au lancement, d'être aux côtés de vos clients à chaque fois, y compris pour ce lancement de jeudi prochain.
C'est un moment extrêmement intense avec les clients. Parce qu'en fait, les clients, j'aime bien cette image, vous confient leur enfant. Alors, c'est un peu particulier parce qu'ils vont l'envoyer très loin et les enfants, normalement, on les garde auprès de soi. Mais ils vont, en tous les cas, ils veulent que le voyage que vous allez accomplir pour eux se passe bien et cela crée des liens extrêmement forts et donc il est absolument clé que le président d'Ariane Espace soit à leur côté pour vivre ce moment et pour construire dans la durée une relation.
Stéphane Israël, est-ce que vous redoutez les prix bas, la concurrence d'un Elon Musk avec SpaceX ou bientôt celle d'un Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui lui aussi veut aller dans l'espace et veut peut-être être moins cher qu'Ariane ?
Alors, si je puis me permettre, d'abord, j'aimerais commenter, est-ce que Elon Musk est moins cher ou pas qu'Ariane? C'est très difficile parce qu'en fait, nous ne connaissons pas ce que coûte un Falcon 9, ce qui est son lanceur, nous connaissons ses prix. Or, ce que nous observons, c'est qu'il a une double politique de prix, et je dirais même une triple politique de prix. Il y a le prix affiché sur son site internet qui est une fusée, chez moi, ça coûte 62 millions de dollars. Et puis, en réalité, il y a le prix qu'il pratique pour son client américain. Et là, ça va être entre 82 et 150 millions de dollars. Et il y a le prix qu'il pratique à l'export, quand il vient nous chatouiller et nous gratouiller les mollets. Et là, ça peut être encore moins que 60 millions. Donc, c'est très difficile de savoir combien coûte un Falcon. Ce qui est certain, en tous les cas, c'est qu'il s'appuie sur les missions institutionnelles pour pouvoir être moins cher à l'export.
Ce qui est certain, c'est qu'Ariane 6, qui est lancée depuis mercredi dernier, c'était il y a 4 jours, vous avez signé il y a 4 jours avec l'État et un certain nombre d'organismes, ça s'est lancé et ça va permettre de faire une fusée Ariane moins chère.
L'idée d'Ariane 6, c'est alors que nous faisons avec Ariane 5, 5 à 7 lancements par an, ce sera d'en faire 11, 12 ou 13. Pourquoi ? Parce qu'il y aura deux versions, une version dite institutionnelle de la fusée, qui pourra lancer plus souvent des satellites institutionnels que ne le fait Ariane aujourd'hui, et la version commerciale qui sera le successeur d'Ariane 5. Et donc, en accroissant les cadences, vous allez diminuer les coûts unitaires de production. Après, il y a tout l'effet qu'on va pouvoir retirer du fait que c'est un nouveau système, donc de nouvelles méthodes de conception, de nouvelles méthodes de production, de nouvelles méthodes d'exploitation. Je vous donne un exemple. Là où nous intégrions jusqu'à aujourd'hui Ariane 5 à la verticale, demain on va intégrer Ariane 6 à l'horizontale et en fait, ça coûte beaucoup moins cher, ça prend moins de temps et donc les campagnes de lancement vont être réduites.
Il n'y a pas le risque, le fameux risque d'ubérisation par ces nouveaux acteurs américains dont vous avez dit qu'ils étaient pas nécessairement moins chers, mais qui ont des façons de concevoir les fusées différemment. Vous pourriez être rattrapé d'ici 2020 ?
Je dirais, et sauf tout le respect que j'ai pour un taxi, une fusée c'est un tout petit peu plus complexe. Or, il est tout de même très intéressant de constater, et je le dis en toute modestie parce que les lancements ont leur part de risque et les nôtres aussi, donc tout lancement est une opération difficile. Notre compétiteur a eu deux échecs en 15 mois, un échec pour la NASA en juin 2015 et un échec extrêmement spectaculaire. Le 1er septembre 2016, le lanceur a explosé sur le pas de tir avant même que les moteurs n'aient été allumés. Ça n'était jamais arrivé aux États-Unis depuis 1959, donc là c'est plutôt retour vers le passé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui nous avons la certitude que notre lanceur présente une fiabilité intrinsèque supérieure au lanceur d'Elon Musk. Donc, risque de concurrence accrue à l'évidence, ubérisation, bien finalement, je pense que l'espace et le monde Uber, c'est deux mondes différents et qu'il faut en garder des frontières.
Une dernière question, on est en année présidentielle. Est-ce qu'il faut que nos politiques s'approprient ces prodiges de technologie, qui nous parlent aussi d'une nouvelle frontière, qui nous disent ce que vous nous dites, mais qui disent « c'est formidable, on va le faire, on a une ambition spatiale ».
Oui, absolument.
Ils ne le font pas assez.
Alors, parfois, je dirais que nos politiques nous disent que nous ne le faisons pas assez. Et on en parle souvent avec Thierry Mandon, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et Thierry Mandon, quand on lui a présenté le projet Ariane 6, quand il est arrivé, il nous a dit « Mais bon sang, faites du storytelling, racontez cette histoire, montrez les gens qui font ce lanceur et montrez cette passion. » Il a parfaitement raison. Et d'ailleurs, on l'a écouté puisqu'on a d'ores et déjà, avec Airbus Adventures, monté une campagne numérique de promotion d'Ariane 6. Je crois que c'est notre responsabilité à tous et effectivement d'être fier de ce projet, de faire rêver autour de ce projet.
Stéphane Israël, PDG d'Ariane Espace, le 75e lancement d'Ariane 5, c'est jeudi prochain. Peut-être un record pour le lanceur. C'est tout ce qu'on se souhaite à nous les Européens. On croise les doigts. Merci Stéphane Israël.
Merci beaucoup.
Et tiens, on va se quitter Stéphane Israël avec la valse de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Comme ça, vous flotterez au petit déjeuner. Arrivé demain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Johann Strauss pour la valse du beau Danube bleu, à Sarah Cruz qui prépare cette émission, à Jean-Luc Arblade qui la réalise. Retrouvez l'émission sur europe1.fr, sur Facebook et Twitter, juste après le journal de 10h de Bérangère Bonte, le grand rendez-vous qui reçoit cette semaine le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault. Très beau dimanche sur Europe 1 et à la semaine prochaine, Carole.
À samedi prochain, David. C'était David Abiker.